vous m'en direz tant ?
On parle de supprimer l'École nationale d'administration, l'ENA. Elle est assez régulièrement l'objet de critiques, le plus souvent d'hommes politiques, qui l'ont ou pas fréquenté, mais cette fois, il semble qu'un sentiment populaire encourage des toujours prompts à cracher dans la soupe, si vous m'autorisez cette métaphore radicale. Cette école, que le monde semble nous envier, a été créée au sortir de la Deuxième Guerre mondiale à l'initiative d'un communiste, Maurice Thorez. L'idée était de doter l'État, un État renaissant, de serviteurs compétents. Compétents et, je dirais, presque anonymes. Comprenez qu'ils ne devaient rien à leurs faits de guerre encore récents, à leurs origines sociales ou leur fortune personnelle. L'ENA est le symbole même de la méritocratie dont la France s'honore, même si on peut parallèlement l'accuser de diplomite aigu. L'idée de confier les rênes de l'administration à des gens instruits plutôt qu'à des gens puissants est très ancienne, et il semble que ce soit les empereurs chinois qui en aient eu l'idée. J'ai découvert cela en 68 avec la formule « vieux mandarin sclérosé », adressée généralement à des professeurs d'université dont on ne reconnaissait plus soudain la compétence. Après recherche, la notion de mandarinat m'est apparue comme une prime donnée au savoir, au moment même où justement le savoir était contesté par les plus révolutionnaires. En Chine, entre deux guerres, il importait pour les Qin, les Ming, les Tang et autres Han d'administrer un territoire immense et c'était un vrai métier. Aujourd'hui encore, ce métier d'administrateur est reconnu à sa juste valeur, que ce soit pour l'État, pour ses entreprises, même éventuellement indépendantes, pour l'ensemble du territoire qu'il gère. La démocratie pour vivre nécessite quelques conditions, comme l'instruction du peuple, une bonne justice, avec là encore un savoir-faire spécifique, une bonne administration professionnelle, même si au sommet de l'État règne un amateurisme issu des aléas de la vie politique. Le mandarin administrait le territoire de l'empereur, mais ce dernier avait recours parfois à ses conseils. Un rôle qui excitait tout particulièrement la jalousie et la crainte de beaucoup de gens. Il est à la mode aujourd'hui de critiquer les lobbies. Mais un des tout premiers lobbies dans notre pays est celui de l'administration, qui en sait plus que le ministre sur son ministère, qui l'a précédé et qui lui survivra probablement. C'est vrai, l'ENA est un creuset du pouvoir, mais au moins c'est un pouvoir en principe issu du peuple, puisque cette école n'est réservée à personne en particulier et accessible juste sur concours. Le peuple français, faisant preuve de tout l'enthousiasme dont il est capable lorsqu'il s'agit de couper la branche sur laquelle il est assis, semble donc vouloir la peau de ce symbole de l'État. Mais plus généralement, il y a une défiance envers les grandes écoles, qu'on accuse plus ou moins confusément de conservatisme, d'élitisme, voire de complotisme antidémocratique. Voyons chacun de ces points. Les grandes écoles seraient conservatrices. Notons que certaines n'hésitent pas à se parer du titre de conservatoire. Tout établissement d'enseignement, qu'il le nie ou le confesse, a comme premier devoir de conserver un savoir venu du passé et destiné à être transmis aux générations futures. C'est de la conservation et non pas du conservatisme. Il faut bien des conservateurs de musées, et l'innovation et le progrès ont absolument besoin de se frotter aux certitudes du passé. Ce qu'il y a de plus beau dans la nature naît en général d'un conflit. Il n'en va pas autrement pour les œuvres de l'esprit. Même, au sens idéologique cette fois, sans les conservateurs, les progressistes erreraient dans un espace sans bornes où ils finiraient par s'égarer. Leur prétendu conservatisme aurait aussi pour conséquence une sorte d'uniformité de la pensée étatiste et économique. S'agissant de la formation des hauts fonctionnaires, il faut bien garantir une continuité dans la gestion de l'État. Les grandes écoles seraient élitistes. Là encore, voilà un magnifique truisme. Elles ne sont accessibles que sur concours, et évidemment, seuls les plus capables en bénéficient. Mais est-ce une élite pour autant? Et qu'est-ce qu'une élite finalement? Par principe, l'élite est choisie, élue. Le tout est de savoir sur quels critères. Si c'est sur l'habileté à réaliser quelques tâches, eh bien, il faut se féliciter qu'elle existe. Mais là naît un affreux soupçon, alimenté par la constatation que les élus de ces grandes écoles ont tendance à appartenir déjà à une classe de privilégiés. L'élite se reproduirait au travers de ces écoles. Il est injuste d'en incriminer les grandes écoles. Elles recrutent ceux qu'elles pensent pouvoir conduire à l'excellence. Le problème se situe avant. Comment acquérir le savoir nécessaire pour intégrer ces écoles? Au lycée, en faculté, en classe de préparation, justement, aux grandes écoles? C'est au sein de ces strates de l'éducation populaire que pourrait avoir lieu une éventuelle discrimination. Dernier reproche, la connivence qui se crée dans ces grandes écoles et qui subsiste longtemps dans la vie publique. Les grandes écoles sont tellement exigeantes que leurs élèves y sont littéralement enfermés. Ils ont tendance à vivre entre eux et sont du coup accusés d'être coupés du monde. Une formule amusante est « élite hors sol », faisant allusion à une agriculture fort peu naturelle et sans doute peu pérenne. Et le peuple qui se prend pour le sol, eh bien s'inquiète d'une production qui le snobe. Quant à la connivence, eh bien oui, pour être passé moi-même par une de ces institutions vilipendées, je peux témoigner que, si on y apprend des choses, on s'y construit également un carnet d'adresses. Les réseaux sociaux sont à la mode, mais le réseau des élèves des grandes écoles est une réalité de longue date. Et pourquoi pas s'il est fondé sur l'amitié, sur l'estime réciproque. Allez, le vieux mandarin sclérosé vous salue bien.